Monsieur le Président.
On a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois.
Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas.
J'ai laissé l'appétit de Robert Navarro pour les...
De ce point de vue-là, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français.
Attends, la droite prise dans les filets des pêcheurs socialistes vient de les déchirer, les filets. Et de s'exprimer dans une cacophonie qui tient du free jazz, le chorus reste un classique du genre sur l'air de « Moi ou le chaos ». Quant aux impros, elles laisseraient à désirer pour quelques oreilles non averties. Attention, on joue là dans la cour des grands. Les dissonances ne sont là que pour perturber l'auditeur, du moins est-ce la partition désirée. Désirée. C'est en fait tout l'art d'un UMP fédéralisé qui a dévoré un RPR centralisé. Comme un Big Bang crypto-rocardien qui aurait eu lieu dans les rangs de la droite. L'association de la carpe et du lapin, un mélange de socialisme et de communisme à la sauce démocrate chrétienne, matinée de ce qui restait de gaullisme. Alors, entre bonapartisme de Bonaloi et orléanisme de circonstance, comment les hiérarques intermédiaires de la droite envisagent-ils de sortir du sarkozysme ? En le réélisant pour mieux s'en débarrasser dans 5 ans, ou en permettant à Koussikoussa de muter en avatar de Mitterrand. Et le tout à écouter dans Provoscopie. Alors messieurs, bien le bonjour, salut Arnaud.
Bonjour.
Notre président de l'UMP, Jacques Domergue, notre futur ex-député, enfin on va en discuter, enfin toujours député, quoi qu'il en soit. Et puis, Stéphane Rossignol qui est sur la route et doit nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Je voudrais d'abord qu'on discute un petit peu, parce que c'est nouveau, pas tout à fait nouveau, ça, quoi, un an ou deux. Mais le fait qu'à l'UMP, il y ait des courants. Avant, c'était un parti monolithique comme le Parti communiste. Il y avait un chef, on discutait pas, ça frisait le centrisme démocratique. Maintenant, alors il y a des courants, la droite sociale ou droite juste, incarnée par Vauquiez et 47 députés, la droite populaire, avec des gens comme Lucas ou Mariani pour un retour aux sources. Notamment l'insécurité, la droite humaniste, incarnée par Fillon, Copé, Raffarin, pour un renouvellement démocratique fondé sur une Europe sociale et une fiscalité juste. Est-ce que vraiment il fallait diviser pour régner ? Patron de l'UMP.
Je tiens à souligner qu'à l'époque du RPR, il y avait aussi des tendances. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, François Fillon et Philippe Seguin incarnaient l'aile sociale du RPR. L'aile plus nationaliste, c'était Charles Pasqua. Donc de tout temps, la droite, le RPR en l'occurrence, avait des tendances, mais aussi l'UDF avait aussi des tendances sociales, fédéralistes, européennes, nationales.
L'UDF
avait aussi des tendances, et au RPR c'était pareil. Donc maintenant à l'UMP, c'est normal effectivement que certaines personnes se retrouvent dans différentes tendances, même si à mon avis je crois que l'UMP, on peut avoir sur certaines questions bien des réponses plutôt sur la droite sociale, d'autres des réponses plutôt sur la droite populaire, et qu'il ne faut pas se mettre dans un carcan, parce que la politique, comme dirait Nicolas Sarkozy, c'est les additions et pas les soustractions.
Ah oui, mais alors, du coup, Arnaud Julien, le patron de l'UMP dans le coin, il est quelle tendance ? Droite sociale, droite populaire ou droite humaine ?
Ah bah justement, il a pas de tendance, je viens de vous répondre. Moi, je suis UMP canal historique, c'est-à-dire que pour chaque réponse, pour chaque question...
Pourtant, il n'est pas encore ce garçon.
Non, mais pour chaque question, il n'y a pas des réponses préétablies. Je pense qu'on peut puiser dans différentes tendances au sein de l'UMP. Et vous savez, la politique, c'est aussi des convictions, du pragmatisme, et c'est non pas, comme le font les socialistes...
C'est plus de pragmatisme que de convictions.
Au menu et non pas à la carte. Vous savez, la droite, c'est à la carte, la gauche, c'est le menu. Nous, on a le choix, et bien je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça permet aux différentes richesses de notre formation politique de pouvoir s'exprimer.
Ça, c'était le défaut qui était donné au PS avant. Là. Vous êtes devenu le grand orchestre, là, tu es le chef d'orchestre. Est-ce que la multiplication des instruments, justement, ça n'empêche pas de jouer le même air ?
Non, parce qu'à la différence du PS, les courants ne sont pas structurés financièrement. Il n'y a pas de grand leader.
Vous avez combien ? 237, 238 associations, mouvements, etc., capables de récolter 7500 euros chacun.
Non, mais ça c'est des... Vous savez, chaque homme politique peut organiser, créer un micro-parti, c'est tout à fait légal. C'est visé par les commissions des comptes de campagne.
Chez Socialo, la seule qui avait compris gauche, ça, c'était Ségolène avec
non,
Désir
gauche,
d'avenir.
Ils ont tous Désir d'avenir, Ségolène l'a fait. Bon, ça, en plus maintenant, il y a un décret qui va sortir pour justement permettre à chaque personne de ne pas dépenser plus de 15 000 euros par individu au profit des formations politiques. Je crois que ceci, c'est une bonne chose. Après que chaque personnalité politique s'organise, pourquoi pas, mais en tout cas, nous à l'UMP, il n'y a pas la droite populaire et les autres n'en sont pas organisés financièrement, ce qui permet d'avoir des chapelles, on va dire, au-delà des idées ou des propositions qui peuvent être faites.
Et Jacques Domergue, alors vous êtes quelle tendance, droite sociale, droite populaire ou droite humaniste? Parce que je comprends que, bon, Arnaud, évidemment, en tant que chef d'orchestre, il veut faire jouer un petit peu tous les instruments, mais Jacques Domergue, il est plutôt quelle tendance?
Moi, je n'ai adhéré à aucun courant. Et c'est vrai que si j'avais...
C'est votre côté bariste ?
Non, c'est comme Arnaud, je fais partie de l'UMP. Je pense que le risque pour une formation politique comme la nôtre, qui est née, rappelons-nous, de la fusion de trois formations, le RPR, les libéraux et puis l'UDF, les centristes, le risque pour nous, c'est un risque d'éclatement. Donc il faut aujourd'hui rester très très vigilant là-dessus. Nicolas Sarkozy fait le ciment qui unit l'UMP. Il y a toujours des tendances... pas autonomiste, mais disons des tendances pour exprimer des idées un petit peu différentes. C'est le but des courants, mais il faut rester très vigilant et c'est le rôle des responsables UMP comme Arnaud de fédérer l'ensemble du mouvement parce qu'on sait que la tentation est grande à la division. Aujourd'hui, chez nous, il y a ce sentiment de cohésion qui domine malgré les courants. Alors qu'on voit en face que c'est la cacophonie la plus totale. Et ça, je crois que vous devriez le souligner.
Oui, mais est-ce que c'est jouable, ça, qu'il y ait au sein du même parti des gens qui sont pratiquement tendance Borloo, c'est-à-dire, oui, franchement, humaniste, quoi, jusqu'à une tendance droite populaire, je disais incarnée par Lucas ou Mariani, mais aussi incarnée, ne serait-ce que hier, par Claude Guéant, c'est-à-dire limite extrêmement proche du Front National. Est-ce que c'est pas un peu le grand écart ?
Non, l'UMP reflète ce que pensent les Français. Et donc les Français sont divers. Et il est important que chez nous, on puisse avoir un discours autour de nos valeurs qui sont communes. Je crois que la force de l'UMP, c'est d'avoir une base commune, un socle. Ce qui n'existe pas forcément à gauche. Vous voyez qu'à gauche, ils sont tiraillés entre ceux qui veulent aller vers l'extrême gauche, c'est-à-dire l'anarchie la plus totale, et ceux qui veulent aller vers le centre, c'est-à-dire une politique proche de celle que nous prenons.
Non,
là, il y a une véritable scission. L'UMP a des courants, et ces courants sont axés autour des valeurs fondamentales qui sont d'un côté la liberté, de notre côté le droit d'entreprendre, le respect de l'autre, les valeurs régaliennes pour un État, la force du groupe, mais la possibilité de faire émerger des individualités. Voilà un peu les valeurs qui nous rassemblent. Et là, elles se retrouvent plus ou moins sur la droite populaire, plus ou moins sur les humanistes.
Surtout droite sociale, là, tel que votre discours, là.
Non, mais la droite.
Vous êtes
droite
plutôt tendance Wauquiez.
Mais quand on parle de la fraude, par exemple, et que ces valeurs se rapprochent davantage de la droite populaire, moi, je m'y retrouve dans ces valeurs-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un système social qui est parfois pillé.
C'est le côté le bruit et les odeurs ?
Non, c'est pas le côté le bruit et les odeurs. C'est le fait de dire, attendez, on participe tous, mais il faut pas qu'il y en ait qui en profitent. Et donc, aujourd'hui, comme les temps sont difficiles, ces valeurs, ces notions prennent de plus en plus d'importance. Elles sont exprimées par la droite populaire. Mais des gens qui sont proches des humanistes peuvent le comprendre. Y compris des gens de gauche, d'ailleurs.
Arnaud, est-ce que tu dirais, comme Michel Noir en son temps, il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme ?
Bah, là, tu fais référence à des choses dans les années 80-90, avec une volonté de certains de s'allier avec le Front National. Samedi dernier, nous étions encore en réunion avec Jean-François Copé. La règle était simple, il n'y a aucune alliance avec le Front National. Mais je te rappelle
C'est-à-dire qu'il y aura des candidats de l'UMP dans toutes les circonscriptions, quoi qu'il arrive.
Aujourd'hui, il fait beau. Quelqu'un du Front National va te dire, il fait beau, il y a du soleil. Tu ne vas pas dire, non, aujourd'hui, il pleut, parce que quelqu'un du Front National... Le Front National a... parfois des constats qu'on peut partager. Sauf qu'à différence entre eux et nous, nous sommes là pour trouver des bonnes solutions. Le Front National n'a que des constats, n'a aucune solution à proposer. La preuve, c'est que lorsqu'ils ont géré les collectivités, au bout de 6 ans, je prends l'exemple de Toulon, Toulon a été gagné par le Front National, et au bout de 6 ans, le type qui était maire, il a fait 7%. Les autres sont partis à l'UMP, ils sont partis chez De Villiers, où ils ont arrêté la politique. Pourquoi ? Parce que c'est une impasse.
C'était prêt pour Orange, voilà. Pour Marianne.
C'est une impasse. Partout, hein. Donc après, on peut partager les constats, mais je ne crois pas qu'il faille stigmatiser. Vous savez, il y a des Français, autour de vous qui doivent voter Front National. Ce sont des gens qu'il faut écouter, qu'il faut respecter, pour qui il faut trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas, aussi bien du côté de Mélenchon que du côté du Front National, des millions de Français qui se réfugient dans l'extrémisme.
Tu n'es pas d'accord avec Bernard Tapie quand il disait au début des années 90, on n'arrête pas de dire que Le Pen est un salaud, mais que les électeurs du Front National, il faut les comprendre. Et Tapie disait, si Le Pen est un salaud, les électeurs du Front National sont aussi des salauds.
Que monsieur Tapie a rencontré à plusieurs reprises Jean-Marie Le Pen, ça a été prouvé. Donc, vous savez, le discours est la vérité. Nous, on préfère dire ce qu'on pense et ce qu'on fera que voir Bernard Tapie qui, dans l'arrière-cour, négociait avec Jean-Marie Le Pen et devant faisait comme on dit, de la petite politicienne.
Tu ne penses pas quand même que... Parce que le constat que tu dis, là, il fait soleil. Je pense que c'est toutes les formations qui savent lire la météo. Hein, à savoir s'il pleut, s'il ne pleut pas, s'il fait soleil. Mais par contre, ce que je crois... C'est qu'effectivement, j'aimerais savoir ce que tu dis, ce sont des solutions du Front National que l'UMP aujourd'hui, auxquelles elle adhère. Ce n'est pas au constat, c'est à la solution.
Sur l'Europe ou sur l'euro,
on a les mêmes solutions. Par exemple, il n'y a qu'à voir, par exemple, le discours de Grenoble, et ceux qui s'en est suivi
sur les immigrants.
Avec l'immigration, les Roms, etc., qui ont été montrés du doigt, et pas seulement qu'en France. Effectivement, là, ce n'est pas simplement un constat. Météorologique. C'est une solution.
Mais la sécurité, c'est le dossier le plus caricatural.
D'ailleurs, c'est ce qui avait fait, je crois, qui avait créé au sein de l'humanité, justement, de l'UMP, le plus de divergences, enfin, ou de positions différentes. Ça reste quand même une vérité, ça.
Non, mais sur les problèmes d'immigration et sur le problème de sécurité, c'est vrai que le Front National fait souvent l'amalgame entre les deux. Bon, il y a évidemment aujourd'hui des sujets sur lesquels il faut faire très attention parce qu'on sait que la frontière ne doit pas être franchie. Mais il est certain qu'aujourd'hui, ça a été dit ces jours-ci, il faut se poser la question sur les capacités de la France à accueillir. Moi, je le vois, on accueille en permanence des étrangers dans les établissements de santé, par exemple. Aujourd'hui, parce qu'on n'a pas assez de médecins français, ou tout au moins parce qu'ils sont mal répartis, mais il faut avoir des conditions d'accueil qui soit digne de la France. Ce n'est pas toujours le cas. Dans certains domaines, on peut. Dans certains domaines, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut accueillir toutes les personnes qui sont en difficulté sur la planète ? Non. Donc, définissons...
C'est vrai pour les prisons aussi.
Mais c'est surtout vrai pour les problèmes de l'immigration du travail.
La France n'a pas un accueil satisfaisant, donc il ne faudrait pas mettre autant de gens en prison.
Vous voyez que vous avez toujours tendance à dériver.
Là, il faut parler des victimes, alors. Non, mais là, il ne faut pas non plus...
On est sur divergence, Jacques Domergue.
Il faut pas non plus... La prison, ça ne va pas non plus le Club Med. Mais pour rebondir ce que dit Jacques Domergue, c'est que on ne peut pas d'une part accueillir toute la misère du monde, c'est évident. Et ensuite, pourquoi le Canada, pourquoi l'Australie, pourquoi la plupart des pays du monde choisissent leur immigration et pourquoi nous, on devrait la subir ? Moi, je suis désolé, on doit aussi choisir les personnes qui viennent sur notre sol et non pas subir des gens qui viennent. S'ils viennent pour travailler, eh bien, ils trouvent un travail, ils ont une carte de séjour, ils vivent normalement, ils payent leurs impôts. Ça ne nous dérange absolument pas. Mais personnes qui viennent de manière illégale...
S'ils payent leurs impôts, ils ont le droit de vote.
C'est totalement inadmissible. Moi, je prends
s'ils payent leurs impôts, il faut leur donner le droit de vote.
Absolument pas, c'est-à-dire que ceux qui ne payent pas d'impôts n'auraient pas droit de vote.
Mais t'es pas
ceux qui ne payent pas d'impôts à Montpellier en France n'auraient pas droit de vote.
Mais tout le monde paye des impôts.
Ah non,
ne serait-ce que la TVA.
Évidemment.
Mais non, tu n'es plus d'accord avec le Sarkozy de 2007.
Les taxes d'habitation.
Sarkozy de 2007 voulait donner le droit de vote aux immigrés.
Et je crois que c'est une bonne chose parce que.
De toute façon, voter.
Toi qui es attaché à la citoyenneté, le droit de vote est attaché à la citoyenneté.
Pour voter dans une municipalité, que je sache, il faut payer au moins une taxe d'habitation. Il faut payer des impôts, sinon on n'est pas inscrit
sur les listes électorales. Non, il suffit d'avoir un logement.
Tu payes une taxe d'habitation.
Tu t'inscris. Oui. Bah non, la moitié des Montpellierens ne payent pas la taxe d'habitation. Donc,
ne dis pas une bonne chose.
Non. La moitié des Montpellierens ne payent pas la taxe d'habitation.
Ils sont exonérés à Montpellier.
Voilà. Non, on peut être éligible à partir.
Le droit de vote est associé à la citoyenneté et à la nationalité. Ce qu'on a fait en France, c'est qu'on a donné la possibilité à des étrangers de devenir français. Vous avez aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans les arguments de ceux qui prônent le droit de vote des étrangers. On le voit, il cite l'exemple de personnes qui sont depuis 15 ou 20 ans en France. Mais attendez, qu'est-ce qui a empêché ces gens-là de demander à être français ? Moi, je crois que c'est là le vrai problème. S'ils veulent être français, eh bien, ils auront les mêmes droits que tous les autres Français, notamment sur le droit de vote. S'ils ne veulent pas être français, eh bien, ils ont la restriction sur leur façon de s'exprimer. C'est tout. Ils participent à la vie de la cité, ils font ce qu'ils veulent, mais le droit de vote, c'est spécifique à la citoyenneté, à la nationalité. Et je crois qu'on ne peut pas pour l'instant revenir dessus, sauf pour le problème des Européens, parce que là, il y a le droit de réciprocité.
Oui, allons un petit peu plus loin là, au niveau des présidentielles. J'aimerais bien que vous me disiez qui est le candidat naturel de la droite d'un côté, et de l'autre côté, qui serait le meilleur candidat. Candidat naturel, est-ce que ça doit être Sarkozy parce qu'il serait le sortant? Mais est-ce que c'est forcément, pour autant, le meilleur candidat? Pourquoi pas choisir le meilleur d'entre eux, ou le meilleur d'entre vous? C'est pas moi qui l'ai dit. C'était, c'était Chirac à propos de Juppé. Ou le chef du parti majoritaire. Ça pourrait être une logique. Copé. Ou le collaborateur de Sarkozy. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'il l'appelait, à savoir François Fillon. Est-ce qu'ils n'auraient pas chacun d'entre eux plus de chances que Sarkozy de l'emporter? Est-ce que c'est vraiment la meilleure des idées? Mais on est juste entre nous, hein, là, personne ne nous écoute là.
Il y a des choses qui se sont passées ces derniers mois. Et je crois que ça mérite d'être souligné. Avant l'été, le genre de réflexion que vous faites aujourd'hui était dans l'esprit de beaucoup de Français, et, y compris dans le camp de l'UMP. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Pourquoi? Parce que le président de la République a démontré que dans l'action qu'il a menée dans une période difficile, il était indiscutable et il était le mieux placé pour continuer à présider aux destinées du pays. De ce côté-là, il n'y a aucune ambiguïté. Mais je vous retourne la question. Que se passe-t-il à gauche? Quel était le candidat naturel de la gauche? Quel était le meilleur candidat naturel de la gauche? C'était Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qu'il en est advenu aujourd'hui de Dominique Strauss-Kahn? Soi-disant plébiscité par tous les Français. On voit ce qu'il en est advenu aujourd'hui. Et on a un candidat de substitution, c'est François Hollande.
Aujourd'hui, c'est là où on ne peut que remercier l'UMP de nous en avoir débarrassé.
Et là, on voit aujourd'hui qu'il est discuté. Oui, mais attendez.
Les socialistes n'ont pas établi. Mais enfin, il y a un journaliste américain qui semble avoir fait la preuve.
Écoutez-moi, messieurs. Les socialistes étaient au courant de ce qu'était Dominique Strauss-Kahn. Mais aujourd'hui, personne n'y fait référence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils allaient nous présenter à la présidente de la République quelqu'un qui a peut-être une maladie. Je dis peut-être, avec toute la prudence qui est nécessaire. Eh bien, ça, je pense que c'est un signe d'irresponsabilité du Parti Socialiste. Parce que c'est ça qui allait arriver. Et heureusement, ou malheureusement pour lui, que cette histoire est apparue, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a un candidat de substitution...
Heureusement que vous lui avez piqué son portable au Sofitel.
Un candidat de substitution qui est discuté non seulement par ses adversaires, c'est-à-dire notre camp, mais surtout par les siens et ses proches. Qu'a dit Martine Aubry?
Vous auriez dû le protéger.
Qu'a dit Martine Aubry?
Tous les deux qui étaient au courant quand même.
Qu'a dit Mélenchon de Hollande?
Arnaud en tant que président du MP local. Jacques Domergue en tant que député. Vous lui avez piqué le portable ou pas?
Ce qui gêne aujourd'hui, c'est que dans notre camp, il y a une unité qui est apparue, alors qu'en face, c'est la zizanie la plus totale.
Pour rebondir sur ce que dit Jacques,
vous lui avez piqué le portable ou pas?
C'est que la théorie du complot, dès qu'il y a un événement, maintenant, c'est la grande tradition, théorie du complot. Sauf que tout le monde sait qu'il va coucher à gauche, à droite, à gauche, que directeur du FMI, c'était un peu un petit mi-temps, hein, parce qu'il passait plus de temps à essayer de draguer les filles, à savoir à qui coucher le soir que de bosser pour le FMI, et que d'une part, les socialistes étaient prêts à cacher ses errements. Hein, il était prêt à cacher ses errements pour gagner sa présidentielle.
Il est dit caché, il n'a pas dit cacheur.
Donc, vous savez, là, en termes de... après maintenant, François Hollande. Ce matin, je l'écoutais, il y a une semaine, il signe avec les Verts l'accord pour que la France n'ait plus le droit de veto aux Nations Unies. Puis ce matin, il dit que s'il est président, on maintiendra le droit de veto.
C'est pour ça qu'on l'a surnommé et on le surnommera dorénavant Koussi Koussa. C'est un coup comme ci, un coup comme ça, quoi. Mais j'aimerais bien que vous me disiez, selon vous, c'est quoi le bilan de 5 années de sarkozysme? Parce qu'au niveau du travail, c'est plus de chômage et une baisse du pouvoir d'achat. L'État irréprochable, c'est l'explosion de la dette. L'Europe, on est sous gouvernance allemande, ce que même les Grecs refusent. Alors, c'est quoi le bilan de 5 années de sarkozysme? Alors la crise, comme disait De Gaulle, l'Europe,
Est-ce que la crise, c'est pas une chasse pour Sarkozy?
On le verra dans quelques mois. La crise, en tout cas, c'est une réalité. Et la crise, c'est pas Sarkozy qui l'a créée, elle est internationale.
Mais est-ce que c'est pas une chasse pour
et
Sarkozy?
Je crois pas que ce soit une chance.
Pour cacher quelque part...
Il ne faut pas se réjouir de ce genre de situation. Je suis surpris que vous le présentiez comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent aujourd'hui. Et allez leur demander si la crise, c'est une chance. Aujourd'hui, la crise, c'est une réalité.
Pas une chance pour les Français, mais pour Nicolas Sarkozy.
Elle concerne tous les pays de la planète, ou presque. Et aujourd'hui, il faut y faire face. Et Sarkozy, même si on peut critiquer ses premiers mois de son mandat, aujourd'hui, on a vu qu'on avait quelqu'un à la tête du pays qui savait gérer le pays, qui savait faire face à la crise. Moi, je vais vous dire ce qui se passe dans les autres pays. Parce que moi, j'ai des contacts avec les médecins hospitaliers qui sont en Italie ou qui sont en Espagne. Aujourd'hui, en Espagne, ils ont eu 2 baisses de salaire. Vous n'entendez pas une, 2 baisses de salaire. En France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en France, on tient toujours le même niveau. On peut dire aujourd'hui que malgré les difficultés, malgré les souffrances que peuvent avoir beaucoup de Français, le pouvoir d'achat, pour la plupart, a été maintenu. C'est vrai, on a creusé la dette. C'est vrai qu'il y a eu ce choix qui a été fait. Mais aujourd'hui, on est en face de la nécessité de mettre en place une politique rigoureuse. Eh bien, allons-y, faisons les choix qui s'imposent pour, on parlait de la fraude tout à l'heure, pour rationaliser, pour diminuer les dépenses de l'État. Et surtout, il y a une chose qui est fondamentale, pour relancer l'économie. Si on ne crée pas des emplois dans notre pays, et les emplois, ils ne se décrètent pas, comme dit le candidat socialiste, ce n'est pas des emplois publics dont on a besoin. C'est des emplois vrais, avec des entreprises qui créent de l'activité pour faire en sorte que les Français trouvent du travail. Et c'est comme ça que le pays repartira.
Et quelle différence il y a entre un tricheur et un voleur?
Pour moi, il n'y en a pas.
Mais pourtant, effectivement, justement pour prendre des mesures, disons, pour réduire la dette, il y a eu un différentiel entre les tricheurs et les voleurs.
Et si on va au-delà, parce qu'on va y revenir sur la question des tricheurs, des voleurs, des fraudeurs, mais selon vous, est-ce que vraiment on peut encore aujourd'hui sérieusement croire dans le capitalisme ? Le capitalisme financier a remplacé le capitalisme industriel, Marx l'avait prédit, mais Raymond Barre aussi. Est-ce qu'on peut admettre se faire dicter une politique, quelle qu'elle soit, par les marchés et les agences de notation ? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'inventer autre chose ? Et d'autre part, comment expliquer que la démocratie soit bonne en théorie et mauvaise en pratique si on s'en tient à l'attitude des Européens face à la Grèce ? Lorsque le Premier ministre grec avait proposé un référendum, tout le monde a rué dans les brancards en disant « surtout pas de référendum », autrement dit, ce qui montrait les limites de la démocratie. Alors, est-ce qu'on peut croire encore dans le capitalisme? Est-ce que, franchement, messieurs, vous êtes encore des démocrates?
Non, mais pour bah, déjà, il y a beaucoup, de questions.
C'est le grand chef qui répond d'abord.
Non, mais Arnaud, pas de grand chef ici. Mais il y a déjà beaucoup de questions. Sur la démocratie, réponse, oui, la démocratie. Je veux dire, le premier ministre grec, à l'époque, comme les députés grecs, avaient été élus par le peuple. Donc, c'est une démocratie représentative. Donc, aucun souci par rapport à ça. Ensuite, les marchés, eh bien, on voit que... un exemple, hein, je veux dire, quand l'entreprise Areva appelle le Parti Socialiste pour revoir des lignes entières du programme entre les Verts, eh bien, ça existe de part et d'autre, hein, des interventions des grandes entreprises. Et sur le marché, eh bien, on vit dans une économie ouverte.
Et quand la CGT vient en secours de Sarkozy sur la même question.
Comment ?
Et quand la CGT vient au secours de Sarkozy sur la même question au niveau de
la CGT, au
niveau nucléaire.
Au secours de Nicolas Sarkozy, la CGT vient au secours des employés de la branche du nucléaire en France qui est menacée par l'accord avec les Verts. Mais en l'occurrence, non. Je veux dire, le marché a toujours été présent depuis des décennies. C'est aux États de réguler et d'être le gendarme de ces marchés. Et c'est l'occasion pour le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a été président du G20 pendant un an. Et c'est lui qui l'a réactivé pendant la crise de 2008, justement, à faire entendre aux différents partenaires internationaux, surtout aux pays émergents, qu'il faut réguler, justement, le marché international.
Est-ce que vous trouvez, alors, Jacques Domergue... Monsieur Rossignol qui vient d'arriver dans les studios de la Grande Motte, est-ce que vous trouvez normal de se faire dicter une politique quelle qu'elle soit par les marchés et surtout par les agences de notation ?
Moi je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve que le travail fait par les agences de notation est salutaire. Vous voyez que je vais très loin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a un capitalisme financier qui est une honte, je n'ai pas peur des mots, et ce capitalisme financier est en train de détruire la planète et le bien des citoyens qui y vivent. C'est ça le véritable problème. Et heureusement qu'il y a ces fameuses agences de notation sur lesquelles on tape à tout vent, qui sont là pour nous rappeler, pas à nous, citoyens, mais aux États, que depuis 30 ans, on fait n'importe quoi. Et c'est ça la réalité. Et s'il n'y avait pas ces agences, on aurait continué à dériver. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est beaucoup plus grave que ça. Regardez ce qui s'est passé sur le dernier siècle. Sur le dernier siècle, les phases de prospérité qu'il y a eu en Europe ont toutes fait suite à des périodes de guerre. Et la particularité de la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus en guerre grâce à l'Europe. Et le fait qu'il n'y ait plus de guerre fait qu'on ne peut plus aujourd'hui reconstruire. parce qu'on n'a pas été capable de détruire. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, parce qu'il y a toujours des générations qui sont sacrifiées.
D'où une petite intervention en Irak.
D'où aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir avec ça.
Ou en
d'où aujourd'hui,
Libye,
les difficultés
qu'on rencontre
pour l'Europe, qui va descendre de plus en plus bas pour pouvoir reconstruire. Et on aura des périodes de prospérité le jour où on aura touché le fond. On n'est pas encore au fond, malheureusement. Et aujourd'hui, la situation des sociétés européennes ou des sociétés industrialisées telles qu'elles sont aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, va au fond du trou. C'est évident, ça. Et derrière, on va reconstruire.
Donc effectivement, je comprends qu'il faille 50 plus de
Sarkozy. Ce sont des phénomènes cycliques.
Je comprends qu'il faille 50 plus de sarkozisme, alors.
Sarkozy essaie de maintenir à flot,
au fond du trou.
Essaie de maintenir à flot notre pays, fait en sorte que cette protection qu'il assure auprès des citoyens permet à la France de vivre mieux que les autres pays. Je vous l'ai dit à propos des chirurgiens espagnols, deux baisses de salaire ils ont eu dans l'année qui a précédé. En France, on a gardé le même pouvoir d'achat. Donc vous devriez dire, c'est une chance qu'on ait un type comme ça à la tête du pays, même si vous ne l'aimez pas, parce que ça, c'est une vraie réalité. On ne peut pas avoir aujourd'hui quelqu'un qui s'improvise et qui change
d'avis. Mais si je vous écoute bien, il faut qu'on arrive au fond du trou. Donc qui sait qui va pouvoir nous amener le plus vite au fond du trou ?
On y va au fond du trou. Et la question qui se pose, c'est de savoir qui sera à même de nous permettre de reconstruire. Eh bien, je pense que Sarkozy
sera à même
de reconstruire.
Oui, mais il faut d'abord aller au fond du trou.
On y va, de toute façon.
Oui, mais qui c'est qui va nous permettre d'y aller le plus vite possible, de façon à ce qu'on puisse remonter après ?
C'est pas propre à la France. C'est l'Europe aujourd'hui qui est pratiquement au fond du trou. Et donc, c'est ensuite de savoir quel sera le chef d'État le mieux à même de nous permettre de rejaillir et de retrouver une place telle qu'on l'a toujours eue dans l'Europe avec l'Allemagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Allemagne, parce qu'elle a su faire, il y a quelques années de cela, un certain nombre de sacrifices. Il y a eu des gouvernements démocrates, SPD et CDU, chrétiens démocrates et socialistes, avec des socialistes plus intelligents que les socialistes français, parce qu'ils ont su faire jouer l'intérêt général et pas les intérêts particuliers de leur propre parti. Ça a permis à l'Allemagne d'aller plus vite sur des réformes qui n'ont pas été stoppées, comme on a pu le voir en France bêtement par le Parti socialiste.
Alors, on va y revenir après, tout à l'heure à propos de quelques réformes, justement.
Qui est le Parti socialiste le plus conservateur d'Europe, qui est contre les réformes, qui veut maintenir ses privilèges. Et quand on voit...
C'est quand même curieux que la droite traite les autres de conservateurs.
Bien entendu que c'est le Parti...
Vous étiez quand même les égéries du conservatisme.
L'UMP et la formation politique avec Nicolas Sarkozy qui a le plus réformé ce pays. Les années Jospin, rappelez-vous les années Jospin, ils ont entrepris aucune réforme essentielle. La retraite,
les 35 heures.
Ah oui, bien sûr, oui. Ce sont des réformes qui ont mis à bas l'économie française. La retraite, qui elle était en train de se retrouver au fond du trou, hein, on faisait rien pour la retraite. Ils n'ont pas voulu traiter ce problème essentiel qui était celui de la retraite en particulier.
Jospin a réformé à fond les 35 heures, les emplois jeunes.
On a vu ce que ça a donné en termes économiques. Effectivement, on en paie encore les résultats aujourd'hui.
Comment ça, on paye les résultats ?
Ben oui, les 35 heures, on voit ce que ça a provoqué.
Il avait réduit la
dans
dette.
Le secteur hospitalier.
Il avait réduit la dette, Jospin.
Moi, qui suis dans une ville, élu dans une ville touristique, on voit ce que ça, les effets que ça provoque sur la restauration, sur l'hôtellerie, en termes de personnel aujourd'hui. C'est catastrophique, les 35 heures sur l'activité économique de certains secteurs.
Les Allemands ont mis en place un système où, justement, il y a une diminution d'horaire, justement, pour éviter le chômage.
On travaille plus que 35 ans en Allemagne.
Ils ont mis en place dans les entreprises depuis la crise, depuis 2008, en liaison avec les syndicats, une acceptation de diminution de salaire. Aujourd'hui, l'Allemagne travaille dans certaines entreprises 25 heures, 30 heures, etc.
Payé combien ?
Donc les Allemands ont mis en place beaucoup moins que les 35
heures. Ça s'appelle de la flexibilité.
Non, là, pour revenir à ce que dit, s'il y avait une recette miracle pour diminuer le chômage, ça se saurait. Mais là, ce que tu évoques, c'est pas généralisé dans toute l'Allemagne. C'est que quelques entreprises qui ont décidé de le faire, et c'est pas celles qui exportent et qu'on connaît.
Par rapport aux solutions allemandes, et on va y arriver, ça va être en gros une bonne partie de notre deuxième conversation. On va se faire une petite pause musicale, justement, avant de passer à notamment à la politique allemande.
Want to sign check, c'est okay.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.